Donc je suis Marie Binet, conseillère conjugale et familiale et sexologue. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour aborder la conversation des corps, donc en effet ce langage du corps au sein de l'intimité conjugale. Je crois qu'on en parle depuis des siècles et ce n'est pas fini. Mais on va essayer d'en parler sous différentes thématiques. Alors, le rapport, la relation de soi avec son corps, c'est une histoire personnelle dans la grande histoire. En fait, la relation au corps, elle évolue avec le temps, déjà à titre personnel, et puis la relation au corps, elle a évolué dans le temps de l'histoire humaine. Alors je reprends, hier on fêtait la Saint-Irénée, alors j'ai repris en fait une phrase de Saint-Irénée que j'ai trouvée complètement d'à propos. Donc aimer son corps c'est s'aimer et vice versa, mais il disait « mon corps est image et ressemblance de Dieu, notre chair c'est nous-mêmes, c'est l'unité du corps, esprit et âme, le Fils de Dieu s'est fait chair, Dieu s'est fait homme, donc notre chair est importante ». En modelant l'homme, le Père avait en vue son Fils incarné, et l'homme est donc jusque dans sa chair l'image du Fils de Dieu. Je pense que ça pose bien les choses, c'est-à-dire que notre corps, nous avons à en prendre soin, que nous sommes pleinement incarnés, et que c'est beau, et que c'est bon. On pose déjà ce que devient la sexualité conjugale, avec une telle beauté du corps qui est créée parce que nous sommes faits pour aimer, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Malgré ça, nous sommes aussi liés par l'éducation que nous avons reçue. Est-ce que nous avons grandi dans une famille où il y avait de la démonstration affective, on a été touché ou pas? Est-ce que nous avons pu librement être dans une expression émotionnelle et est-ce qu'on l'a été autour de nous? Quelle est la relation au plaisir? Il y a des familles dans lesquelles le plaisir, c'est très lointain, c'est une fois qu'on a fait plein d'efforts, qu'on l'a mérité, etc. Donc du coup, le plaisir, il est quelquefois inaccessible. Et puis, il y a le dialogue. Est-ce qu'on peut se parler? Est-ce qu'on peut se parler de tout? Est-ce que je peux me dire? Est-ce que je peux entendre l'autre? Et tout ça, ben, ça concerne aussi le corps. Vous savez, il y a des familles dans lesquelles on se fait mal, c'est rien, on passe. Même la douleur du corps n'est pas entendue. Et puis, il y a les représentations et les stéréotypes. Mais en fait, le corps, on a tous une vision du corps. Déjà, là, nous, vous savez qu'on se regarde dans un miroir, on se trouve plus gros que la réalité de ce qu'on est vu par les autres. Et puis, il va y avoir l'esthétique. J'ai dans mon cabinet des personnes qui me disent, surtout quand on vieillit, on prend quelques kilos, les formes changent, oh, je supporte pas qu'elles soient comme ça, j'aimerais bien qu'ils remaigrissent, etc. Donc, on a une esthétique du corps qui va être en jeu dans la manière d'aller l'un vers l'autre. Et puis bien sûr, les représentations et les stéréotypes dans le genre, le corps d'un homme, le corps d'une femme, ça serait comment? Il y a la mode de la barbe depuis quelques années. Pendant un long temps, il n'y en avait pas. Il y a des hommes dans l'histoire qui portaient des jupes, et puis là, en ce moment, non, ça se fait plus. Donc il y a des représentations qui vont être liées, bien sûr, et des stéréotypes liés à la culture et au temps. Après, il y a tout ce qui est autour de la connaissance, de la médecine, de la biologie, des neurosciences, parce qu'aujourd'hui, le corps, on le connaît beaucoup mieux qu'il y a 50 ans. Et donc, pendant des siècles, on a été sur des croyances, parce qu'on pensait que. Sauf qu'aujourd'hui, on a des connaissances, parce qu'il y a l'imagerie, parce qu'il y a les études, parce qu'il y a vraiment tout ce qui va être empirique et qui est validé par la médecine. Je prends par exemple ce qui se passe au niveau du plaisir masculin et féminin. C'est Master et Johnson, dans les années 50, qui ont fait des expériences en vrai, en live. Ils ont demandé à des couples de faire l'amour devant eux pour pouvoir vraiment qualifier ce qui se passait au niveau physiologique et au niveau des réactions. C'est ce qui a permis de pouvoir vraiment montrer quelle était la réponse sexuelle. Et aujourd'hui, on se sert très simplement de ces études-là pour pouvoir expliquer comment l'homme et la femme peuvent arriver à partager non seulement un plaisir, mais être dans un mouvement de leur corps dans la sexualité. Ensuite, il y a les religions. Alors, si on prend la religion catholique, mais il n'y a pas qu'elle qui est concernée, on est passé par des moments où il y avait la pureté à tout prix, Les évangéliques sont beaucoup là-dedans encore aujourd'hui, avec un courant qui revient très fort des États-Unis. On a été bien sûr autour de l'adultère. Le sixième commandement du Deutéronome parle de sexualité à travers l'adultère, mais ce n'est pas le seul moment dans la Bible où on peut parler de sexualité de cette manière-là. Puis il y a eu aussi la virginité de la Vierge Marie. Donc c'était très bien, sauf que du coup, on s'est mis à rendre asexués un certain nombre de personnes. Les enfants, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les prêtres. Et donc la sexualité, elle n'était que lorsqu'il y avait un couple qui devait procréer. Je résume, je grossis le trait, mais il y a eu cette tendance-là. Ce qui fait qu'on est passé à côté d'une connaissance aussi, d'une réalité. Je prends un autre exemple. Les manifestations naturelles du corps n'étant pas comprises ni connues scientifiquement, elles ont été dans la religion catholique et après par la médecine à partir du XVIIIe siècle. Alors la religion catholique c'est bien plus tôt, mais ça a été dénoncé et condamné. Cassien, par exemple, disait que, il n'a pas été le seul, puisque ça a été repris par d'autres derrière lui, que les pollutions nocturnes, c'est-à-dire les éjaculations spontanées qu'un homme peut avoir, eh bien, c'était un péché, que c'était pervers, etc., etc., et c'était, entre guillemets, puni de plusieurs jours de jeûne. Au XVIIIe siècle, la médecine a repris ça en disant que c'était interdit et que, du coup, toute éjaculation, c'est l'onanisme, toute éjaculation hors d'une relation sexuelle était condamnable, etc. Et on a fait des générations de jeunes garçons et d'hommes qui se sont mortifiés, qui se sont culpabilisés, qui se mortifiaient même physiquement. Il y avait des mortifications physiques dans les pensionnats pour les jeunes garçons. Alors que c'est un phénomène naturel, hormonal, qu'un homme peut connaître à partir de l'adolescence, plusieurs fois dans sa vie. Un homme comme une femme peut jouir en dormant. Bon, bah les hommes, ça se manifeste avec une éjaculation, pas les femmes, mais n'empêche que c'est un phénomène naturel. Donc on est sur une évolution de la connaissance qui fait qu'il y a une approche aussi différente du corps, du coup, dans la manière d'en parler, et puis de se connaître, de se découvrir. La société, et j'ai précisé occidentale, eh bien, elle va aussi aujourd'hui, à travers sa culture et sa tradition, donner aussi une vision du corps. Il y a d'autres peuples, d'autres cultures sur notre terre où le corps n'est pas pris en considération. Il est juste une enveloppe. Alors que nous, comme je disais tout à l'heure, il est nous. Et donc finalement, c'est comment je rentre en relation avec mon corps, comment je reçois l'autre avec son corps. Aujourd'hui, on va être très contemporain. Il y a les influenceurs sur les réseaux sociaux qui parlent du corps à tort et à travers. Et puis alors, on a commencé avec un culte du corps dans les années 80, avec beaucoup de performances. Il fallait le doper, le muscler, l'affiner, tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui, on est, votre corps, c'est le vôtre. Alors en même temps, on l'aime beaucoup. Puis en même temps, on finit par le détester parce qu'il n'est pas dans la norme, il n'est pas comme il faut. Et donc, il y a un tiraillement, quelle que soit la génération dans laquelle on est, avec le jeunisme, vieillir, les premières rides, c'est rigolo, puis alors après, non, il faudrait que ça s'arrête, etc., etc. L'intelligence artificielle, qui pose beaucoup de questions par rapport à l'incarnation, puisqu'on est de plus en plus sur des applications, sur des logiciels qui sont proposés pour aimer une intelligence artificielle, pour faire l'amour avec une intelligence artificielle. Et donc, c'est compliqué, mais ça existe et ça se développe. Avant ça, il y avait ce qui existe depuis longtemps, c'est de faire l'amour avec un robot. Les robots sont très bien faits aujourd'hui, ils ont l'apparence complètement d'un homme et d'une femme. Puis aussi, on a le fait de faire l'amour à distance avec son compagnon ou sa compagne, il y en a aux États-Unis et en France, et on fait l'amour à distance. Et ça fonctionne, mais n'empêche que le corps, on n'est qu'avec soi, on n'est pas avec le corps de l'autre. Alors l'érotisme et la pornographie là-dedans, pareil, ce sont des phénomènes aujourd'hui qui sont intéressants à étudier, puisque là, pleinement, le corps a sa place. Seulement, dans la pornographie, le corps n'a que la place. Il n'y a pas le reste, ce qui fait que même le corps, dans ce cas-là, devient un objet et il n'est plus respecté et pris dans sa dimension en tant que personne. Alors, le corps, c'est aussi une découverte. La peau, c'est notre premier et plus grand organe. Il faut savoir que quand un bébé naît, il a 100 000 milliards de neurones qui ne sont pas encore connectés entre elles. Alors, le bébé, il explore son corps dès le ventre de la maman. On a des images de bébés qui se touchent le sexe dans le ventre de leur maman. Et du coup, le bébé va connaître, va découvrir à sa naissance et puis dans sa petite enfance l'hétérogénéité de son corps, et tant mieux. Si un petit garçon et une petite fille se touchent, la petite fille le clitoris, le petit garçon le pénis quand il est petit, bien sûr on ne fait pas ça devant tout le monde, mais n'empêche qu'heureusement parce qu'il permet à ses neurones de se connecter. S'il n'a pas découvert sa main, il l'utilisera jamais sa main. Ben, c'est pareil en fait avec son sexe. Donc le fait de toucher permet des connexions qui vont lui permettre plus tard, plus grand, de pouvoir se connecter à sa sexualité et du coup de la partager. Ensuite, du coup, on parle de génitalité et puis de la masturbation. La masturbation, quand un enfant se découvre, quand il n'est pas pubère, il est dans la découverte. Ce n'est pas une masturbation telle qu'on peut l'entendre quand on est adulte. Quand on est à l'adolescence, bien, c'est aussi l'occasion d'une découverte, parce que bien sûr, il y a des nouvelles sensations. Et cette masturbation qui a été condamnée pendant des siècles, en fait, on sait aujourd'hui, comme je viens de vous dire, elle permet de connecter, de comprendre, de connaître. Et quelque part, elle a quelque chose qui est un peu, je dirais, entre guillemets, un peu hypocrite. Parce que pour un garçon, c'est assez facile de connaître et de comprendre comment il fonctionne. Parce que depuis tout petit, il le voit et il touche. Pour une femme, c'est différent. C'est très interne, une partie est cachée, etc. Et donc finalement, si elle n'apprend pas à se découvrir, alors elle peut le faire avec son conjoint si elle attend l'âge adulte. N'empêche qu'il peut y avoir aussi cette nécessité à un moment de bien comprendre comment, rien que d'un point de vue de la physique, comment elle est faite. Donc il faut bien aller découvrir. Ça n'est pas que hygiénique. Donc la masturbation, ce n'est pas que pour mon plaisir, c'est aussi pour pouvoir mieux me donner et partager ce plaisir avec l'autre. Et j'entends régulièrement des hommes dans mon cabinet qui me disent « Mais bon sang, elle ne se connaît pas et elle refuse d'apprendre à se connaître. Comment je fais ?» Ben bien sûr, si elle ne veut pas, il ne peut pas aller plus loin. Donc il y a une connaissance mutuelle, et puis quelque part, quand les hommes qui peuvent avoir l'habitude de s'être touchés à un moment donné, ils croient se connaître, mais le problème c'est que souvent ils sont trop centrés là-dessus et ils oublient qu'ils ont un corps qui est fait de plein d'autres zones très intéressantes aussi. Et donc ils le découvrent un peu à plus tard. Alors la découverte du corps, c'est par le regard. Quel regard je pose sur mon corps? Si je n'aime pas mon corps, je ne le donnerai pas. Je ne laisserai personne m'approcher. Quel regard je pose sur le corps de l'autre? Quelle parole je pose sur mon corps? Moi, je suis moche, je suis grosse. Sur le corps de l'autre, oh, t'as vu, qu'est-ce que t'as grossi? Tu ferais mieux de faire attention à la manière dont tu t'habilles, etc. Bon, c'est dévalorisant. Est-ce que je pose des gestes sur mon corps agréables? Je masse, je me fais un soin du visage, etc. Est-ce que, je me souviens d'une patiente qui, elle, a dit, je me lave, vite fait, bien fait, et puis c'est tout. Voilà, c'était que le corps pour l'hygiène, et le reste du temps, son corps, elle ne le voyait pas, elle ne le regardait pas. Et puis bien sûr, elle lui mettait une chemise, un pantalon, parce qu'il fallait bien quand même sortir dans la rue, mais c'était tout. Quelle est mon identité avec ce corps? Je vous vois tous là devant moi, vous êtes tous habillés différemment, vous n'avez pas les cheveux de la même couleur, vous n'avez pas les yeux de la même couleur, donc votre corps dit quelque chose de vous. Il n'y a pas le choix. Est-ce qu'on l'assume? Est-ce qu'on assume d'être comme on est? Et on sait qu'en vieillissant, on peut plus ou moins bien l'assumer. On se dit, bon, c'était mieux peut-être il y a 10 ans, etc. Bon, ok, d'accord. N'empêche que ça dit quelque chose de moi. Et qu'est-ce que j'en fais? Après, il y a mon identité sexuée. Je suis une femme, je suis un homme. Alors bien sûr, on peut beaucoup en parler aujourd'hui, mais je ne savais pas le propos de mon topo ce soir. Mais n'empêche, voilà, est-ce que je peux assumer ma féminité, ma masculinité? Mon corps montre des formes particulières. Mon corps montre une force peut-être particulière, une sensualité particulière. Est-ce que je peux aussi être avec et bien avec? Donc mon genre, féminin, masculin, et puis le toucher. À quel toucher je suis habituée? Quel est le toucher que j'aime? Alors je vous ai mis quelques exemples, mais j'ai une patiente qui m'a dit que qui m'avait dit là il y a quelques temps, avec son conjoint c'était compliqué parce que lui il la caressait comme il aurait fait la vaisselle. Quand il frottait le bras, c'est comme s'il passait l'éponge. Et donc elle disait c'est vraiment désagréable, j'en ai marre. Voilà. Donc en fait quel est le toucher? Est-ce qu'il est tendre? Est-ce qu'il est bien-être? Est-ce qu'il est brutal? Est-ce qu'il est simple? Souvent je dis au couple massez-vous. Je leur dis pas un massage kiné, un massage sensuel. Voilà. Est-ce que c'est un toucher consolateur, câlin, maternel, paternel? Voilà. Comment il est fait ce toucher? Et puis, bien sûr, quand on est dans la découverte, on s'occupe de notre sensorialité. Nous avons 5 sens. Alors, on a tous souvent un sens prioritaire et un secondaire. Mais dans la sexualité, dans le corps à corps, ces sens comptent énormément. Est-ce que j'aime l'odeur de l'autre? Est-ce que j'aime la qualité de sa peau? Comment est-ce que j'aime qu'on m'embrasse? Où est-ce que c'est, etc. Et donc, se dire, voilà, ces 5 sens, comment je suis avec? Parce que c'est notre manière d'être au monde. Le bébé, hein, c'est par les 5 sens qu'il commence à être au monde. Il se connecte à sa maman par la peau, l'odeur et le goût. Et la vue, quand il tète, puisque vous savez que la distance entre le sein et le regard de maman, c'est la distance qui est la seule distance que le bébé voit au départ. Et puis progressivement, sa vue augmente. Donc du coup, on est dans cette sensorialité, et elle se travaille, la sensorialité, dans la rencontre des corps. Et puis, il y a tout ce qui est mécanique et physiologique. Alors, je vous ai fait une différence entre orgastique et orgasmique parce qu'en fait, un corps, très mécaniquement, il peut jouir sans qu'on fasse grand-chose. C'est ce qu'on appelle orgastique. Il y a des femmes qui disent « je sens rien, mais je jouis quand même ». Parce que leur corps, le cerveau, est très bien connecté, là, la génitalité, donc ça fonctionne. Mais elles n'y sont pas complètement. Par contre, l'orgasme, c'est le corps entier qui, d'une manière beaucoup plus voluptueuse, va pouvoir être dans ce plaisir. Et du coup, le contrôle de soi, il compte énormément. Qu'on soit un homme ou une femme, on peut énormément contrôler son corps. Et plus on est contrôlant, plus dans la sexualité, c'est compliqué. Il faut être extrêmement détendu pour que tout marche bien. Alors après, il y a toutes les expériences qu'on a faites. La découverte de notre corps, de notre sexualité, c'est aussi, est-ce qu'on a un corps plutôt vibrant? On aime les vibrations et on a eu ces expériences-là. Est-ce qu'on a un corps qu'on utilise comme une carapace? Est-ce qu'on a un corps qu'on utilise comme une armure, carrément? Est-ce qu'on a un corps que l'on sent diminué, qui a pu être amputé? Je pense à ces femmes à qui on enlève l'utérus. Et bien, du coup, leur sexualité, pour revenir, elle demande quelque chose de particulier. Les hommes, pareil, quand on leur retire la prostate, ça a une incidence sur leur vision de leur corps et bien sûr sur leur sexualité. Est-ce que mon corps est malade et me donne des empêchements à... voilà. Est-ce que je tiens compte de ce corps de cette manière-là et comment je le respecte, j'en prends soin et comment je peux du coup accepter de le donner? Alors, le corps, eh bien, il fait partie du langage du désir. C'est quand même avec le corps qu'on attire l'autre. Donc, c'est ce que j'appelle la séduisance. Est-ce que nous sommes séduisants ou séduisantes en tant qu'homme ou en tant que femme? Ça, chacun, je dirais, cette compétence, mais qui peut être innée ou qui peut se travailler. La séduction, c'est ce qu'on va exercer sur l'autre. Alors, ça peut être très sain, comme ça peut être un peu stratégique. Mais en tout cas, il y a une séduisance à travers le corps. La manière de se tenir, la manière de parler, la manière de regarder, la manière de faire les gestes. Tout ça, ça dit quelque chose de nous. Et on le sait très bien, quand on a envie de faire une rencontre, les femmes, elles sont comme ça, les hommes, ils sont comme ça. Voilà, le corps est en action pour se montrer. Tout ça, ça a été étudié. Ensuite, je disais tout à l'heure, le regard. Vraiment, c'est l'élément le plus important, le regard. Dans un couple, lorsqu'on ne se regarde plus, on devient inexistant. Donc le corps, il se replie sur lui-même. Il ne va plus se donner. L'intimité. Eh bien oui, en fait, si on a du désir pour le corps de l'autre, c'est qu'on a envie de créer une intimité avec lui ou avec elle. On franchit un cap. Quand on est juste ami, on peut se prendre dans les bras, on peut se consoler. Mais dans la relation conjugale, on franchit, on va beaucoup plus loin, on se mélange. J'en parlerai tout à l'heure. Alors, le langage du désir à travers le corps, c'est pour se dire. On dit beaucoup de choses avec son corps. Vous savez, je me décale un peu de la sexualité, mais quelqu'un va vous dire « Ouais, ah, t'es en colère ». Mais non, pas du tout. Mais en fait, avec sa voix, il a dit quelque chose. Vous pouvez avoir les sourcils qui se froncent, il a l'impression de ne pas être en colère, mais il vous montre tout l'inverse. Et puis, on va parler de la pudeur. Alors la pudeur, c'est un voile important qui permet de garder secret pour soi ce que l'on n'a pas envie de donner à tout le monde ou à n'importe qui. Et donc son corps, il y a des choses qu'on garde pour soi. Et même dans un couple, il peut y avoir de la pudeur. Je pense à certaines femmes qui disent « moi, il est hors de question, qu'il me touche un sein, n'importe quand, n'importe comment ». Pour d'autres, ça change rien, c'est pas grave. Mais donc, parce qu'il y a une pudeur pour elles. Voilà, c'est un endroit qu'elles veulent réserver à certains moments. Il peut y avoir la question du secret et la sexualité conjugale, le corps à corps conjugal est secret. Ça se fait dans un endroit où personne ne vient. Et puis normalement, personne ne devrait le savoir. Bon, c'est pas toujours le cas. Mais n'empêche que, voilà, c'est secret, c'est un langage unique, particulier, et qui est tellement bon, tellement beau, qu'il se passe dans cette intimité. Et puis, il y a la tendresse. Le langage du corps, le premier langage du corps, normalement, que nous avons appris, c'est celui de la tendresse, avec nos parents. C'est ce qui permet de découvrir l'attachement affectif, l'attachement relationnel, et que, en couple, nous cherchons perpétuellement à retrouver, tous les jours. Donc, comment est-ce qu'on est tendre l'un avec l'autre, un peu, tous les jours ? C'est vraiment le ciment du couple, parce que, justement, c'est toutes ces manifestations dans le toucher et dans le regard qui disent à l'autre « Tu existes à mes yeux et je t'aime ». Après, il y a toute la sensualité. Alors là, on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous la même façon de ressentir la sensualité de notre corps. Et donc, il y a des personnes beaucoup plus sensibles au toucher que d'autres, des personnes qui recherchent ce toucher, d'autres moins. Et du coup, c'est comment je connais les parties de mon corps qui sont agréables, que j'aime qu'on touche, mais même tranquillement, voilà, sans forcément qu'il y ait de sexualité derrière. Ensuite, l'érotisme. Alors l'érotisme, c'est vraiment un langage du corps. Vous savez que nous avons plusieurs endroits érogènes sur notre corps. Alors les femmes en ont plus que les femmes en ont plus que les hommes, mais souvent les hommes les connaissent mal, les leurs. Et donc, ce qui est intéressant en couple, c'est d'apprendre à redécouvrir la sensualité de l'un et de l'autre et d'augmenter la découverte, la connaissance érotique de l'un et de l'autre à travers son corps. Et ça se fait, ça fait partie peut-être des scripts quelquefois, de complicité, de connivence dans le couple. Et cet érotisme, en fait, il permet de réveiller le corps après la sensualité. Et réveiller son corps, bah, c'est lui permettre de s'ouvrir davantage à recevoir l'autre et à se donner. Et puis, il y a bien sûr le sexe en lui-même. Et je prononce le mot, et le pape François ne s'est pas gêné pour le prononcer devant des jeunes en 2018. Voilà, il y a un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Voilà, quand on est dans la conversation des corps au cœur d'une intimité conjugale, eh bien, on vit du sexe. Et ce sexe, eh bien, il est là pour dire à l'autre, j'ai envie d'être avec toi, d'être au cœur de toi, et j'ai envie que tu viennes au cœur de moi. Et donc ça, c'est ce qu'il y a en fait de plus beau, et malheureusement, c'est pas forcément bien parlé aujourd'hui, mais quand on le parle bien, et quand on le fait bien, on vit plus que juste du plaisir, on vit quelque chose qui remplit. La sexualité, c'est se mélanger. Alors, la sexualité, elle s'éduque. On n'est pas né avec la connaissance de la sexualité. Ce n'est absolument pas inné, c'est un acquis. Elle s'apprivoise dans son corps et dans celui de l'autre. Elle se dit, elle s'exprime, elle s'ancre. Elle dit quelque chose de moi, de mon affectivité, de mon attachement. Il y a des personnes qui sont très en demande de sexualité. C'est pas qu'elles sont forcément, elles pensent qu'à ça, elles sont pervers. C'est parce que ça vient remplir leur vase affectif. Il y a une demande affective forte derrière. Pour d'autres, elles ont beaucoup plus de difficultés à y aller parce qu'il peut y avoir plus de peur ou un peu moins de désir. Alors, vous savez que le premier acte sexuel, geste sexuel qu'on partage dans un couple, c'est le baiser. On s'embrasse quand on s'embrasse vraiment, parce qu'on mélange les fluides et il y a une pénétration des deux bouches. C'est pour ça que quand on s'embrasse, c'est pas pareil avant et après. On a partagé avec l'autre quelque chose qu'on partage habituellement pas. Voilà. Et ce baiser, c'est rigolo, comme quoi, dans les couples, c'est celui le plus souvent qu'on finit par ne plus échanger au fur et à mesure que le couple vieillit ensemble. Souvent, je dis au couple, vous vous embrassez ? Non. Jamais ? Bon, de temps en temps, quand on fait l'amour. Et le reste du temps ? Ah non. On oublie. Pourtant, c'est vraiment le premier geste qui a montré qu'il y avait une intimité et qu'on avait envie d'être avec l'autre. Alors, se mélanger, c'est aller vers. Parce qu'une conversation des corps, ça ne se fait pas s'il y en a un des deux qui ne veut pas. Ça ne se fait pas si on ne prend pas l'initiative. Se mélanger, c'est accepter de fusionner. On est dans un corps qui va dans l'autre. On est l'un contre l'autre très fortement. Cette intensité, est-ce qu'on est prêt à la vivre ? Ensuite, je vous ai dit la prise d'initiative et le fait d'oser. Les couples qui viennent me voir quand ils ont des difficultés dans leur sexualité, c'est j'ose plus. Et puis de toute façon, je suis pas sûre. De toute façon, ça va être non. Et puis de toute façon, comment il faut faire? Et puis tout, voilà. Et donc du coup, on finit par plus rien faire. Et vous savez que moins on fait, on a cette conversation du corps, moins on le fera. Parce que le désir s'éteint progressivement. Il faut le stimuler en permanence, ce désir. Et puis du coup, ben, se mélanger, c'est partager des fluides et du pot à pot. Alors quelquefois, ben, j'ai des femmes qui me disent oh, « Je ne supporte pas de sentir que je vais avoir peut-être un peu de sperme, etc. Oh, puis alors je supporte pas s'il a transpiré. » Et puis des hommes qui me disent oh, « Il faut absolument qu'elle se lave avant, etc. » Donc il y a plein de conditions parce qu'il faut que le corps soit comme ci, comme ça, etc. Pourquoi pas ? Seulement jusqu'à quel point on est prêt à vraiment accepter l'homme et la femme tels qu'ils sont créés en fait, avec ces fluides, avec cette peau, avec ce pot à pot. Et bah voilà, ça fait partie aussi d'une conversation qu'on peut avoir et qui peut évoluer dans le temps. Mais en tout cas, c'est important de se le dire. Parce que je me souviens d'un homme comme ça qui ne voulait plus faire l'amour avec sa femme parce qu'elle avait une odeur qu'il supportait pas. Mais il n'osait pas lui dire. Donc elle pensait qu'elle était rejetée, que c'était pas possible. Et bon voilà, ça a pu se dire, ils ont pu en parler et ils ont trouvé comment résoudre ça. Ensuite, il y a le cœur à cœur. Se mélanger, c'est être dans un cœur à cœur. Ce n'est pas que du corps, sinon c'est de la pornographie. Donc si je me donne avec mon corps, qu'est-ce que je donne de moi en plus ? Est-ce que j'ai conscience de donner quelque chose de moi en plus ? Et bien souvent, on donne bien plus, c'est ce que les jeunes d'ailleurs témoignent, quand ils ont eu des relations sexuelles alors qu'ils n'étaient pas complètement prêts, et même des adultes. Hein. J'ai des adultes qui viennent dans mon cabinet, ils changent de partenaire assez souvent, puis au bout d'un moment ils disent « mais ça n'a pas de sens quoi, ça stop, ça suffit ». C'est pas drôle au bout d'un moment. J'ai envie de vivre quelque chose intérieurement, de partager quelque chose avec l'autre, au-delà juste du corps. Et pourtant, ce qui s'exprime avec ce corps est essentiel et magnifique. Parce que les couples, pareil, qui n'ont plus de sexualité alors qu'ils aimeraient depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, ben, ils sont malheureux parce qu'il y a quelque chose qui ne se vit plus et qui appartient au couple. Alors la sexualité conjugale, elle est au cœur d'une relation conjugale. C'est une danse à deux. Et c'est vraiment bon que les deux aient envie. Mais quelquefois, il y en a un qui a plus envie que l'autre. C'est pas très grave, c'est normal. La sexualité, c'est comme l'amour, ça fluctue. C'est pas linéaire. Et alors d'autant moins, parce que ça c'est sur la slide qui a sauté, c'est que les hommes et les femmes, nous n'avons pas les mêmes rythmes biologiques. Déjà, les femmes sont cycliques à partir de la puberté, ce qui fait que leur sexualité, elle va aussi suivre ce cycle. On sait hormonalement que les femmes ont plus de désirs pendant la période fertile. Il faut bien quand même attirer le reproducteur, entre guillemets. Hein. Mais à part ça, elles peuvent aussi avoir un regain de désir juste avant les règles ou pendant les règles. Donc il y a un effet hormonal. Après, cet effet cyclique fait qu'elles ne sont pas disponibles et réceptives tout le temps. Alors que les hommes, oui. Parce que les hommes hormonalement sont beaucoup plus linéaires. Déjà, eux, c'est jusqu'à la fin de leur vie qu'ils ont de la testostérone, même si elle commence à baisser à partir de 30 ans, et que plus ils vieillissent, plus elle baisse. Et donc, du coup, j'ai un collègue qui disait que les hommes se féminisaient un peu plus dans leur sexualité en vieillissant. Ils sont un peu moins pris par leurs pulsions, et donc ils sont un peu plus dans la tendresse, la sensualité et l'érotisme. N'empêche qu'il y a ce côté un peu plus linéaire, avec le matin un peu plus de testostérone présente, mais qui fait que du coup, ça peut être compliqué pour un homme quelquefois de comprendre que bah oui, sa femme, elle n'a pas envie, mais c'est pas parce qu'elle ne veut pas de lui. C'est que là, franchement, elle n'est pas réceptive, elle n'est pas disponible, et c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas faire un petit pas. Hein. Parce que souvent, il y a même des femmes qui disent « bon, je n'avais pas trop envie, il m'a stimulé, c'était génial ». Bon, ben voilà. Il n'y a pas de raison de passer à côté de quelque chose qui fait du bien. Mais c'est juste pour dire qu'il y a cette différence de rythme du corps. Et avec la ménopause, la femme redevient un peu plus linéaire. Et donc, c'est à elle aussi de voir comment elle profite de cette nouvelle période pour peut-être redécouvrir sa sexualité autrement. Et il y a des femmes aujourd'hui, après la ménopause, qui justement en profitent d'autant plus. Pendant les grossesses, pareil, les femmes, elles ont des fluctuations qui font que souvent, il y a un regain de désir et même quelquefois extrêmement fort pendant le second trimestre. Il y a même des femmes qui découvrent l'orgasme pendant leur grossesse. Alors, la sexualité, donc, qui est au cœur du couple, elle demande de tenir compte de cette différence homme-femme dans les rythmes, dans la manière d'être réceptif. Les hommes sont en 3 minutes à peu près disponibles et prêts à avoir un orgasme. Les femmes, on le sait, il faut un peu physiologiquement à peu près 20 minutes. Ça ne veut pas dire qu'un homme ne peut pas attendre une demi-heure et qu'une femme ne peut pas aller beaucoup plus vite, d'accord? Parce que ça, c'est la connaissance de son corps et puis la complicité qu'il y a dans le couple. C'est simplement pour dire que tenir compte de ça, c'est comprendre aussi qu'il y a des moments, eh bien, il faut travailler la créativité. Comment on arrive à trouver un rythme commun? C'est pas toujours évident. Il y a des moments, ça passera mieux que d'autres. C'est plus souvent plus facile quand on part en week-end que de rester tout le temps à la maison. Mais en tout cas, c'est, voilà, quelle créativité? La créativité, elle peut concerner plein de choses. Les gestes, les positions, elle peut concerner les lieux, elle peut concerner les mots qu'on se dit avant, elle peut concerner le partage des fantasmes, plein de choses. Et puis, ça demande une ouverture. Je prends l'exemple d'hommes qui me disent « Moi, j'arrête de faire l'amour avec ma femme, elle fait l'étoile, c'est inintéressant. » Alors, il y a une ouverture du corps, mais il n'y a pas d'ouverture du cœur ni une disposition à réellement se donner. Donc la femme a l'impression de se donner, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait, mais en fait non, elle ne se donne pas complètement, elle retient une partie d'elle. Et du coup, la gratitude, elle est difficile à donner dans ces cas-là, on a du mal à dire à l'autre merci pour ce bon moment, ni l'un ni l'autre ne va avoir envie de le dire. Alors qu'une sexualité qui est épanouissante, une conversation du corps qui est intéressante, qui fait du bien, on a envie de dire merci. Comme quand on a passé un bon moment au restaurant, à bien manger et à se parler, et c'était sympa, ou à rire ensemble. On peut même rire en faisant l'amour. Alors, c'est travailler, bien sûr, toute cette qualité du don et cette qualité de la réception. Si je reviens, je fais un petit saut sur le sacrement de mariage. Le sacrement de mariage, il est à l'image du don total du Christ pour son Église, de Dieu pour son peuple. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas de retenue. Donc, les époux, lorsqu'ils décident de se marier sacramentellement, ils disent oui à ce don total d'eux-mêmes. Ben on voit bien que dans la sexualité, c'est compliqué. Il y a des moments, on retient un peu de soi. Et souvent, ce que je dis, c'est que finalement, lorsqu'on est passé à côté de la connaissance du plaisir masculin et féminin qui peuvent se rencontrer, eh bien, en fait, ça empêche, et ça a empêché et ça empêche encore, des hommes et des femmes de se donner totalement. Je retiens une partie de moi. Je ne donne que ce qui serait permis, ou ce qui ne serait pas défendu, ou ce que je choisis, etc. Et si je me donne totalement, eh bien, je lâche. Et si je lâche, je peux donner mon plaisir. Et il y a des femmes, par exemple, qui disent « Ah non, je ne peux pas faire la grimace devant lui, ce n'est pas possible. Je ne peux pas montrer mon plaisir à l'autre. » Alors, c'est aussi se dire comment on peut être dans un partage qui va porter du fruit. Quand même, quand on a une sexualité épanouie, on est beaucoup plus souriant, on est beaucoup plus joyeux, et puis on a envie de recommencer. On a plus envie d'aller avec l'autre. Et puis vous savez très bien que quand il y a une rencontre comme ça dans le couple, ça libère de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement. Donc on renforce son lien conjugal. On se fait un bon petit coup de dopamine, l'hormone du plaisir, on met un peu de vasopressine, on a une sérotonine qui va être plus équilibrée, enfin tout va bien, parce que quand on me dit « Oh, on n'a pas le temps de faire l'amour, on n'a pas le temps de se parler comme ça, c'est fatigant », eh bien tant mieux, vous dormirez mieux après. Donc c'est pas la bonne excuse. Mais en tout cas, c'est de se dire que c'est stimulant pour la relation, stimulant pour chacun, et ça vient donner une couleur à la relation qui est unique et qui appartient à chaque couple. Sur Internet, on va vous dire plein de choses. Ce sont juste des indications. Bon, quelquefois, elles sont fausses en plus. Mais des indications, c'est vraiment une création, une créativité unique à chaque couple. Donc, je me donne totalement, corps, cœur, esprit, dans la chasteté. La chasteté, je la définis très, très rapidement, mais c'est vraiment le respect de l'intégrité physique, affective, psychologique et spirituelle de la personne. Donc, si j'ai cette conversation du corps avec l'autre, je ne l'abîme pas à l'autre. Si ce que je pose comme geste ou comme parole sur ce corps abîme l'autre, je ne suis plus dans la chasteté. Alors c'est toute la problématique du consentement. Et vous savez qu'en couple, il y a encore le viol conjugal. C'est reconnu maintenant, heureusement, ça fait pas très longtemps, mais c'est reconnu dans notre pays, pénalement. Et il y a encore des situations de viol conjugal où le consentement de l'un ou de l'autre, surtout de la femme, mais ça peut arriver chez les hommes, n'est pas respecté. Ensuite, il y a la question du pardon. Une sexualité épanouie est une sexualité qui se vit au cœur d'un couple qui s'entend. Alors, on peut se réconcilier, comme on dit sur l'oreiller. Une conversation des corps peut précéder une conversation verbale. Pour certains, ça passera mieux. Et puis pour d'autres, il faudra d'abord avoir une conversation verbale et ensuite aller sur l'oreiller. Alors souvent, les femmes, elles posent la condition, tant qu'on n'aura pas parlé, on n'ira pas sur l'oreiller. Bon, peut-être que ça peut se discuter, voilà, parce que c'est suivant les situations et quelquefois, ça bloque tellement que c'est un peu dommage. Ensuite, dans cette conversation, on n'est pas obligé toujours d'aller jusqu'à la pénétration et jusqu'au plaisir total. On peut avoir un dialogue des corps qui va être dans un érotisme qui est tout aussi satisfaisant et pour l'un et pour l'autre. On s'est juste retrouvé dans la chaleur du corps de l'autre. Alors, il y a union et communion dans l'orgasme. Ça, c'est vrai, hein, quand on me dit le mieux, c'est de jouir ensemble. Alors, ça ne marche pas toujours exactement au même moment. Ça, pareil, il ne faut pas se mettre trop de pression. Parce que sinon, ça peut entraîner des dysfonctions. Hein, ça peut entraîner un stress chez l'un ou chez l'autre. Mais en tout cas, c'est vrai que de savoir que l'un et l'autre peuvent vivre ce plaisir, ça renforce la complicité et ça donne beaucoup de joie parce qu'on se dit on s'est pleinement donné ensemble. Alors oui, c'est de la joie, la sexualité conjugale. Cette conversation des corps apporte de la joie. J'ai des couples dans mon cabinet qui se parlent très bien. Ils n'ont pas de problème de communication verbale. Et ils viennent me voir pour un problème de communication vraiment sexuel. Et ils sont malheureux, tout autant que des couples qui n'arrivent pas à se parler verbalement. Et souvent, quand les couples viennent me voir pour une difficulté dans leur sexualité, eh bien, en fait, ce n'est pas la conversation des corps qui est difficile. C'est réellement la conversation des cœurs. Ils n'arrivent plus à se parler avec leur corps parce que leur relation est malade. Et finalement, en soignant la relation, le langage du corps revient comme un peu au premier jour et même il s'embellit, il s'enrichit de tout ce qu'ils ont appris et vécu. Et ce que je tenais à dire, c'est que la sexualité, elle ne s'arrête jamais. À 90 ans, on peut encore vivre une sexualité. Bien sûr qu'il y a des circonstances qui peuvent venir l'altérer, l'arrêter pendant quelques temps. Mais on peut la vivre, on peut continuer à la vivre d'une manière ou d'une autre, par cette connaissance mutuelle, cette complicité, et puis cette confiance. La conversation des corps, je me donne à toi, c'est pareil qu'avec le cœur, je me confie à toi dans la confiance. Et lorsqu'un homme ou une femme n'est plus dans cette confiance, eh bien, il va retenir quelque chose et ça peut provoquer des dysfonctions sexuelles. Ça va être par exemple la dyspareunie ou le vaginisme de la femme. Ça va être compliqué d'accepter de recevoir la pénétration. Chez un homme, ça peut être un trouble de l'érection ou de l'éjaculation parce qu'il va y avoir quelque chose de stressant. Mais il peut y avoir aussi des traumas. Vous savez que les traumas peuvent venir altérer la conversation du corps vis-à-vis de soi et avec l'autre. Donc bien sûr, il y a toutes les agressions sexuelles qui ont été vécues, mais ça peut être aussi, je pense par exemple à une femme qui a été opérée d'une appendicite toute petite, et en fait, la manière dont on l'a triturée, entre guillemets, a fait qu'elle s'est coupée du bas de son corps. Donc du coup, elle s'était coupée aussi de sa génitalité. Donc c'est, voilà, comment je suis dans ce, je vous disais, ce rapport au corps qui fait que je vais pouvoir me le donner et puis accueillir le corps de l'autre avec ses cicatrices, avec ses expériences et puis peut-être des expériences passées dans des corps à corps qui ont été vécus avec d'autres, autrement, qui ont laissé de belles traces et quelquefois moins bonnes. Mais voilà, on est fait avec tout ça et on se donne à l'autre et on reçoit l'autre avec tout ça. Alors la sexualité conjugale qui est le cœur de cette conversation des corps, elle s'apprend. Donc ne vous désespérez pas si vous avez l'impression qu'il y a des moments de creux. C'est normal, il y a des soirs où on n'a pas envie de se parler, ben, il y a des soirs où on n'a pas envie de faire l'amour. Il y a des mois où on est préoccupé par son boulot, on n'a pas envie d'être avec l'autre. Eh bien, c'est pareil, ce ne sera pas le moment forcément de se faire un câlin. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la première conversation des corps, qui est la tendresse, reste essentielle. J'ai peut-être pas envie de faire l'amour avec toi, mais je peux te prendre dans les bras. J'ai peut-être pas envie de te parler ce soir, mais je te fais un sourire et je te regarde. Voilà, le corps peut dire énormément. Vous savez que 80% de notre communication passe par le corps. Donc finalement, réaccorder de la place au corps dans la relation intime, eh bien, c'est redonner encore plus de place à cette relation, à la communication qu'on peut avoir l'un avec l'autre, et pour le bonheur de l'un et de l'autre, jusqu'à la fin. Merci.